It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Salut à tous, quatrième journée à Roland-Garros avec le début du deuxième tour. Journée marquée par la victoire facile de Stefanos Tsitsipas, celle un peu plus accrochée d'Alexander Zverev, tout comme celle de Serena Williams en trois manches, et la défaite, malheureusement, d'Enzo Cuoco. Il y a des choses à débattre avec Camille Pin, Bertrand Millard et Laurent Vergne. Salut à tous les trois.
Salut Adrien.
Alors, Cuoco va-t-il franchir un cap avec ce parcours fantastique à Roland-Garros, ce deuxième tour? Il nous a surtout régalé sur ce premier tour, mais ce deuxième tour était pas mal non plus. C'est notre débat du jour. La question qui fâche ensuite, Roland, est-ce que c'était mieux avant? On va essayer de ne pas faire trop vieux con, comme on dit. Sans oublier la stat de Jeux 7 et Maths, le compte Twitter dont nous sommes partenaires, et l'affiche à suivre jeudi avec un alléchant Gasquet Nadal. Terre débattue, c'est parti. Alors le débat du jour concerne Enzo Cuoco. Enzo Cuoco qui nous a régalé sur son premier tour, qui a joué plutôt bien face à Pablo Carreño Busta pendant une première partie de match. Après, c'était un peu plus difficile pour lui. Est-ce que ce match va lui servir à franchir un cap? Ce match même, ce parcours à Roland-Garros. Camille, toi qui étais sur le court et qui l'a commenté.
Effectivement, Adrien. C'est vrai que moi, j'ai pas mal découvert Enzo lorsqu'il est revenu en 2018 et qu'il remporte le Challenger de Cassis. Il a eu énormément de blessures, donc on savait qu'il avait le potentiel, mais on ne savait pas s'il allait pouvoir tenir. On lui a même dit qu'il ne pourrait plus jamais jouer au tennis quand même. Donc, sachant cela, plus qu'il est capable de produire aujourd'hui sur un tableau de Grand Chelem, c'est la toute première fois, tous les Français, on est tétanisés lorsqu'on a une invitation et qu'on arrive sur ce tournoi. Sa manière de gérer ce premier tour face à Gerasimov, oui, je pense que clairement, ça va débloquer quelque chose dans son tennis. Il a pris énormément de plaisir aujourd'hui. J'étais avec lui dans le tunnel et il entendait Enzo, Enzo. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour donner du sens à une carrière et booster une carrière. Et après, on peut dire oui, mais s'il n'a pas le tennis, il ne va pas aller bien loin. Il a montré aujourd'hui face à Carreño Busta sur le premier set que lorsqu'il est ambitieux et qu'il croit en son tennis, franchement, il peut jouer le top 100 déjà là dans très peu de temps. Mmh. Et ensuite, il a grandir, effectivement.
On le rappelle, il perd en 4-7, donc il gagne le premier quand même 6-2. Et jusqu'au milieu du troisième set, c'était quand même assez équilibré. Il a eu deux balles de break à 4-3.
Deux jeux où il mène 15-40, je crois.
Ouais. Le troisième est vraiment décisif, Adrien, en fait, sur comment va basculer le match. Donc, il tient tête quand même à Carreño Busta, qui a réussi, comme toujours, sur des joueurs d'expérience, à mettre le petit plus dans les moments importants pour s'imposer. Mais extrêmement surprise de ce que peut produire ce jeune homme avec ce qu'il a vécu en amont. Il sert très bien. Il a envoyé à 200 au T régulièrement, capacité en revers de prendre tôt, très bonne volée. Donc, il a tennistiquement de quoi faire. Maintenant, il lui fallait un boost de confiance. Donc, moi, je pense, oui, ça va être quelque chose d'important pour lui, ce qu'il vient de vivre là pour le reste de sa carrière.
Toute proportion gardée, on avait Hugo Gaston en 2020. Là, à une échelle moindre, Enzo Cuoco, c'est la belle surprise de ce début de Roland-Garros.
Oui, mais ça n'a pas grand-chose à voir parce que Hugo Gaston est un jeune joueur encore. Donc, Hugo Gaston est arrivé à un âge où voilà, on arrive parfois sur le circuit en n'étant pas encore connu. Enzo, alors moi, j'ai pas mal d'affect pour ce joueur. Ceux qui ont lu ma chronique du jour le savent parce que je le connais depuis longtemps. Je le connais depuis qu'il a 17 ans. C'était lors d'un séjour à l'île Maurice pour un tournage qu'on avait fait pour Eurosport. J'ai côtoyé pendant 15 jours dans une préparation d'avant-saison. C'est un garçon qui est très attachant, qui est très sympa, qui est très bien élevé, très poli, qui a de très bonnes valeurs.
Ça fait de toi un champion, ça.
C'est quelqu'un déjà d'avenant et sympa à côtoyer. Bon, son tennis à l'époque, il est junior et c'est un grand espoir du tennis français. Il est en équipe de France jeune, assez rapidement. Il avait, comme l'a dit Camille, un excellent revers. Son service était encore évidemment perfectible. C'est pas encore le service d'aujourd'hui, mais il servait bien. Plus difficile en coup droit, mais on sentait quand même un gros potentiel. Après, le parcours, on le sait pour chacun des joueurs, le parcours, c'est difficile, de passer de junior à senior, c'est toujours difficile. Et son parcours, il a débattu des très bons joueurs. Il a battu Kachanov, par exemple, en futur, ou en challenger, il y a quelques années. Il a battu très bons joueurs. Et quand il a été sur des saisons où il n'est pas blessé, il a eu quand même de bons résultats. Mais freiné par les blessures, il n'a jamais finalement réussi à arriver sur le grand circuit. Il a toujours joué sur le troisième ou sur le deuxième circuit, plus récemment le circuit Challenger, sur lequel il a bien joué cette année encore avec un titre et une finale. Et voilà, c'est quand même un garçon, comme l'a dit Camille, en 2017, qui ne joue pas pendant 6 mois. Il a été opéré 2 fois du coude et la deuxième fois, il ne pouvait plus plier le bras et on lui a dit, effectivement, sur son lit d'hôpital, tu ne pourras plus jouer au tennis. Donc, ça, c'est des parcours qui forgent aussi. Donc, ça explique pourquoi il arrive sur le tard. Lui, ce n'est pas parce qu'il a été universitaire aux États-Unis, c'est parce qu'il a eu des gros problèmes de blessures.
C'est pas pour cabosser, ça va l'aider, selon toi, à aller franchir ce cap?
Mais je trouve qu'il progresse de toute façon déjà. Il progresse, tu regardes son classement, tu regardes ses résultats. En challenger, il est quand même assez probant. Donc, maintenant, c'est le cap difficile, c'est celui-ci. Ça va être de rentrer dans les 150. Là, il va être 167 à la fin de ce tournoi, à 3 places de son meilleur classement. Rentrer dans le top 150 et ensuite top 100. L'objectif, ça doit être top 100.
Mais on n'est pas loin à la race.
Mais je pense qu'il va le faire, oui. Je pense qu'il peut le faire.
Je pense, Bertrand, ce qui va être important pour Enzo, c'est qu'il il fasse une bonne programmation adaptée pour rentrer dans le top 100. On dit le top 100, ce n'est pas une fin en soi. Mais en revanche, pour y arriver, il va falloir, avec son entraîneur, qu'il arrive à trouver le meilleur système pour prendre les points par rapport au niveau qu'il a montré sur ce Roland-Garros. Là, il est capable d'aller jouer des tournois ATP, d'aller prendre des points, d'aller faire des quarts de finale, mixer avec des gros challengers. Voilà, je pense que sur la fin d'année, ça va être déterminant pour lui, pour peut-être surfer sur cette vague positive de Roland.
On peut rentrer dans le top 100, même, allez, on a les 70 meilleurs en jouant quasiment que sur le circuit Challenger. Si on gagne énormément sur le circuit Challenger, c'est peut-être un tout petit peu moins vrai maintenant, mais on peut rentrer 80e mondial.
Sur les gros challengers.
Les 125, il faut jouer quasiment que des 125.
Voilà.
Donc là, l'idée, c'est qu'il continue à jouer des challengers pour emmagasiner de la confiance.
Pour l'instant, de toute façon, il n'a pas le choix. En étant 160e mondial, à part des wildcards sur des tournois français, comme il a eu ici à Roland-Garros, hein, il est rentré dans le tableau avec une wildcard. Il va devoir retourner sur le challenger, donc il faut qu'il continue à progresser au classement. Effectivement, je suis d'accord sur le comparatif avec Hugo Gaston. Il y en a un qui a 20 ans, l'autre qui a 26 ans, et alors le parcours n'est pas le même aussi. L'année dernière, Gaston, il fait un 8e, il bat Wawrinka, il fait 5-7 contre Thiem. Là, c'est pas comparable, mais je pense que pour Enzo Cuoco, c'est plus facile peut-être de digérer ça parce qu'il a davantage de vécu, il a plus bourlingué, il a traversé des épreuves. Donc à ce niveau-là, je ne suis pas très inquiet pour lui. Moi, je l'ai trouvé assez épatant aujourd'hui. Carreño Busta, c'est presque un des pires joueurs à jouer pour un joueur comme ça qui est 150e mondial, parce que c'est un joueur qui ne donne pas grand-chose. Alors, il a donné un peu dans le premier set, mais c'est un joueur qui n'a peut-être pas beaucoup de très très haut dans un match, mais il a très peu de bas. Et donc, comme il donne peu de choses, bah, il faut être pendant 2h30, 3h, 3h30 à un niveau constant. Et on a senti quand même au fur et à mesure du match que pour Enzo, ça devenait dur physiquement. Mais ça, c'est normal. Enzo Cuoco, avant d'arriver à Roland cette année, il avait joué un match sur le grand circuit. Il n'avait jamais joué de match en 3-7 gagnant. Donc, c'est tout nouveau pour lui, ça. Mais il a des belles armes quand même, je trouve. C'est quand même solide ce qu'il propose. Et même, je l'ai trouvé tactiquement, il a tenté des choses. On a vu faire des services volés.
L'amorti aussi.
Ouais, des amortis.
Sur le premier set.
Ouais. Après, ce qui lui a manqué, c'est tout bête, c'est qu'à partir du début du deuxième, Carreño Busta a avancé d'un mètre dans le terrain. Et mécaniquement, lui, il a reculé. Et physiquement, ça a tout changé. Donc, c'est une défaite logique. Mais je trouve que c'est quand même assez prometteur. Maintenant, dire est-ce que ça va changer sa carrière, est-ce que c'est le début de quelque chose, honnêtement, c'est vraiment difficile de répondre à cette question.
Parce qu'on a déjà vu par carrière, par changer la carrière. Est-ce que changer la carrière, c'est quoi? C'est être top 30? Non, changer sa carrière, ce serait rentrer dans le top 100, ce serait jouer régulièrement en grand chelem.
Je pense que quand tu deviens, on dit, tu fais une carrière, déjà, c'est que tu vis du tennis, de ta passion.
Oui, et tu joues quand même déjà. Tu joues sur le grand circuit, tu joues sur le circuit principal. Ouais, voilà,
c'est régulièrement sur le tour. Et, après, moi, je pense que ce match va sûrement lui donner beaucoup de repères par rapport à quel objectif il devra atteindre. Et, parce que je pense que tant que tu joues des challengers, tu ne sais pas ce que te demande le haut niveau. Et je pense qu'il va se rendre compte que son tennis, mais il a largement le potentiel pour le faire. Par contre, c'est qu'il ne le tient pas dans la durée. Donc, mais qu'il n'a pas à jouer mieux, en fait. Il n'y a rien à travailler. Alors, bien sûr, on améliore tout, mais sur ce qu'il a produit dans le premier set et sur son premier tour, il voit qu'il peut largement combattre face au top 100 et face au top 20, comme aujourd'hui, simplement de le tenir. Donc ça, ça donne énormément de confiance aussi. On ne se dit pas, je suis complètement largué parce que je ne joue que des challes.
Le meilleur joueur qu'il a battu, pour l'instant, je crois que c'est un 74e mondial. Hein, donc, ça donne une idée. Il n'a pas battu encore de top 50 dans sa carrière. Aujourd'hui, il jouait quand même un double demi-finaliste de Grand Chelem, un garçon qui était aux portes de la finale de l'US Open l'année dernière. Donc, la marche était très haute. Et moi, je trouve que cette marche, il a bien négocié. Honnêtement, je ne le voyais pas gagner un set 6-2 en plus, enfin, gagner le premier set, mettre Caño Busta en difficulté comme ça. Je trouve que c'est très encourageant. Honnêtement, j'aime beaucoup Enzo, mais je voyais 3-7 pour l'Espagnol aujourd'hui. Donc, de par son expérience, le niveau qu'il a, les grands chelems, l'habitude et de l'expérience, etc. Donc, c'est quand même de bon augure. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'il va pouvoir rentrer sur le circuit principal et faire deuxième partie de carrière.
J'ai envie de le voir plus, hein, tout simplement.
Après, la difficulté, c'est toujours la même. C'est qu'il va falloir passer de Roland-Garros, où tu vis des émotions que tu n'as jamais connu dans son cas. Et maintenant, il va falloir retourner dans un relatif anonymat sur les challengers.
Ils dînent avec Hugo Gaston, ils vont faire un petit débrief de comment on gère des émotions.
Ouais, mais comme tu l'as dit, Laurent, Hugo Gaston, ce qu'il a dû digérer, c'est une victoire en 5 sur Wawrinka, sur le Langlais, dans une ambiance de feu. C'est un match contre Thiem où il n'est pas loin, il perd en 5-7.
Ah oui, c'est, ça
c'est,
rien
un, c'est un huitième. Et évidemment, comme il l'a dit lui-même, tout le monde, quand il arrive ici cette année, c'est « Ah, mais il a fait huitième l'année dernière, ah, il va rééditer, il va refaire un truc génial. »
La plus pression dur, était plus importante, bien sûr. Pour Hugo,
ouais. On a tout dit sur Enzo Cuoco.
Allez, bon. Enzo. On a été court, non?
Vous avez été très bien. Mais on est dans un podcast, on a le temps. Si vous voulez en rajouter, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Sinon, on va passer à notre question qui fâche. La question qui fâche du jour concerne Roland-Garros, le nouveau Roland-Garros, les infrastructures. On sait qu'il y a eu pas mal de changements avec ce toit qui est arrivé, qui était tant attendu déjà la précédente édition. Mais disons que le cours numéro 1 est parti, il y a une nouvelle entrée, il y a des aménagements qui ont été faits. Est-ce que ce Roland-Garros vous plaît ou est-ce que c'était mieux avant? Bertrand.
Moi, je trouve. C'est à double tranchant. Pour moi, c'était un peu mieux avant certaines choses. C'est-à-dire que le central, par exemple, qui est vraiment tout nouveau, notamment la nouvelle tribune de presse, tout ça, c'est flambant neuf, c'est beau. On a une nouvelle salle de presse nous, qui est très belle.
Là, tu parles pour toi, mais pour le manière générale, pour les gens, pour le public.
Pour moi. Non, mais oui, mais oui, mais je parle pour tout le monde.
Tu ramènes un peu toi.
Salle de presse, ok. Salle de presse, ok. C'est moi, mais. Mais elle est au sous-sol. Bon, bref. Je trouve.
Elle était mieux avant.
Je trouve que le problème, c'est que les trois plus anciens, enfin les trois plus beaux cours en ce qui me concerne de Roland-Garros ont disparu. Le 1, qui était une arène exceptionnelle avec des ambiances de folie où il y a eu des matchs de légende. Ce cours-là était adoré de tout le monde. Je connais personne qui m'avait dit, ouais, le 1, je n'aimais pas. Donc ce cours-là a disparu. Il faisait un peu vieillot alors qu'il n'était pas très vieux. Il avait 40 ans, 41 ans. Donc bon, il a disparu. À la place, il y a une nouvelle place des Mousquetaires qui est grande, c'est vrai, mais qui fait, je trouve, un peu vide pour l'instant. Derrière, on a enlevé le 2 et le 3.
Il n'y a pas beaucoup de public cette année, Bertrand, c'est normal.
Alors, j'allais y venir. Voilà. Effectivement, c'est vrai qu'il faudra le voir en configuration avec tout le public, parce que là, ça fausse un petit peu les choses.
Mais le 2 et le 3, la chose positive, c'est que les transats sont libres sur cette plate.
Oui, mais là, c'est un peu
triste. Comme il fait beau,
ils sont un peu en plein soleil quand même. Il faut avoir une bonne casquette. Hein.
Avec une petite glace, ça passe.
Non, le 2 et le 3 ont disparu aussi sous les pelleteuses. Malheureusement, le 2 était quand même un des plus anciens, vraiment, en 1928, un des premiers cours où se jouaient notamment les finales de championnat de France. Un cours très agréable avec sa vigne vierge, avec une tribune où on pouvait s'abriter un petit peu, parce que c'était accolé au 3, qui était super aussi. Un peu vraiment à l'ancienne, un peu comme la même tête que le central avait dans sa première mouture. Un cours qui était très apprécié de tous. Ces deux cours-là ont disparu pour faire une entrée générale un peu plus grande, une statue de Roland-Garros, des portiques. Alors, on fera moins la queue à l'entrée. C'est moderne, c'est plus moderne, mais ça a perdu un peu de son charme. Donc, cette partie de Roland-Garros-là a perdu de son charme. En revanche, il y a deux choses qui sont géniales. Et là, par contre, ce n'était pas mieux avant. Le cours des serres, le cours Simone Mathieu, réussite totale. Déjà, y aller, on passe par les serres d'Auteuil, c'est superbe, le chemin est magnifique. Le cours est très bien réussi, je trouve, et très agréable. On est proche des joueurs, en même temps, il reste un assez grand cours. Et puis, de l'autre côté du stade, derrière le Langlaine, le cours 14, un peu enterré aussi, une très belle arène aussi, dans lequel on aura de très très belles ambiances, je pense. Alors c'est vrai que cette année, Laurent l'a dit, c'est un peu tronqué parce qu'on n'est pas en configuration complète au niveau public, mais ça, c'est deux extrémités du stade, là, il y a deux très belles réussites.
Alors, de quel côté ton cœur balance? C'était mieux avant ou c'est mieux maintenant?
Bah, il y a des choses qui étaient mieux avant. Il y a des cours qu'on aurait peut-être dû garder, qui étaient historiques.
Normand ou t'es stéphanois
alors... aussi... Mais je suis normand 50% par mon père, vous le savez. Voilà. Le HAC est mon deuxième club. Hein.
Si on doit parler du Simon Mathieu, Camille, tu y es tous les jours. Tu le côtoies, c'est une nouvelle arène. Alors, on a perdu le 1, mais on a peut-être gagné le Simon Mathieu.
Ouais, honnêtement, bien sûr, tout le monde aime le 1, mais je trouve que... Parce qu'on n'aurait pas eu le Simon Mathieu si le 1 était resté, concrètement. C'est une réussite totale et moi, j'aime beaucoup la nouvelle configuration de Roland parce que je trouve qu'il y a de l'espace. Peut-être un petit peu plus de végétation m'aurait convenu, voilà, si on demande mon avis, mais je trouve que ces nouveaux cours un peu encastrés donnent une autre dimension aussi et que je ne regrette pas forcément le 1 qui était très particulier, mais je trouve que là maintenant il y a beaucoup plus.
Attention, Bertrand va s'en aller là.
Non, mais je trouve qu'il y avait trop peu d'espace entre le central et le 1.
La seule.
C'était une zone finalement je n'appréciais plus aller au 1. Parce que c'était une telle galère pour y accéder que finalement, ben, ça gâchait le plaisir de ce très beau cours qui, de toute façon, a vraiment une énergie particulière. Donc, je dirais qu'il était peut-être temps de changer quelque chose. Et comme c'est une réussite encore, ils auraient enlevé le 1 juste pour faire de la place. Ça aurait été dur à encaisser. Là, il crée quelque chose qui est exceptionnel. Donc, moi, j'adore ce nouveau Roland et j'ai hâte de voir avec du public justement comment les masses de personnes vont s'organiser. Donc, moi, je suis pour le nouveau à fond.
Laurent ?
Eh bien, moi, je vais pencher du côté de Camille.
Ouh, Bertrand.
Non, mais je rajoute un petit
Bertrand,
truc.
Bertrand, il est à mi-chemin, quand même.
Oui, je suis à mi-chemin, mais il y a un truc qui, malheureusement, va plutôt dans le sens du « c'était mieux avant », c'est pour le central. Mais je vais laisser Laurent parler d'abord.
Non, le français est râleur, donc il râle, c'est normal, mais il faut quand même se souvenir du point de départ. Le nouveau Roland, c'est quoi ? C'est qu'il y avait un constat, c'est que c'était devenu trop petit, trop exigu. Il y avait deux options. La première, c'était de partir, d'aller dans le 77 à Versailles. Il y avait plusieurs options.
Arnavalet aussi, je crois bien, dans ce coin-là, non ?
Ouais, c'est ça, ouais. Et de créer un nouveau stade intégralement, comme les États-Unis l'ont fait à Flushing Meadows, par exemple, il y a une quarantaine d'années. Ce n'est pas ce choix-là qui a été fait. Le choix qui a été fait, c'est de préserver le site historique. Mais à partir du moment où on a fait ça, forcément, il y allait y avoir des changements. Donc, on ne peut pas regretter, à la fois regretter qu'on soit resté là et qu'on n'ait rien fait. Moi, je trouve que ça a été...
J'aurais préféré, carrément être autre part et pas dénaturer le, on va dire...
Non. Moi, je préfère qu'on soit resté.
Personne n'était pour le fait de partir.
Est d'accord pour dire
on a le droit d'être nostalgique sans dire qu'il ne fallait pas changer.
C'est très bien qu'on soit resté, sauf que, à mon avis, dans 20 ou 30 ans, le débat se reposera. Et que Roland Garros, même en s'étendant sur le cours des serres, sur les serres d'Auteuil, restera trop petit à terme. Je ne sais pas si à terme... Ah, c'est son charme, ça posera des problèmes. Les tournois du Grand Chelem grandissent. C'est quand même un des soucis. Maintenant, le Roland-Garros tel qu'il est aujourd'hui, moi, je le trouve beau. J'adorais le cours numéro 1 et le 2 aussi. Mais par exemple, tu l'as dit, Bertrand, ce qui a été fait avec le 14, pour moi, qui est un peu le nouveau numéro 2 et peut-être même entre le 2 et le 1, c'est une super réussite. Ça a redynamisé cette zone-là du site et aujourd'hui on a vraiment un équilibre avec d'un côté le 14, le Lenglen, puis le Châtrier, la place des Mousquetaires et le Simon Mathieu. Donc c'est un site qui est plutôt très bien équilibré, qui est plus agréable, qui est plus agréable.
D'être plus facile d'aller sur les cours qui sont derrière le Lenglen. Je sais pas, il faudrait trouver une voie parce que là il n'y a pas cette voie. On l'a pour aller vers le Simon Mathieu, mais là il faut contourner le Lenglen. Alors là cette année ça va, mais quand il y aura du monde, quand il y en aura dans le public du Suzanne Lenglen, ça va pas être simple d'accéder aux cours qui sont derrière.
Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de solutions parce qu'en termes d'aménagement de ce qui a été fait, je pense qu'on a fait à peu près tout ce qui était possible au niveau majeur en tout cas. Donc je suis pas sûr qu'on puisse aller bien au-delà parce que le site est exigu et qu'il est enfermé. Alors, t'as le périphérique d'un côté, t'as des immeubles de l'autre, donc de toute façon, il n'y a pas de solution. Maintenant, après, quand il y a des transformations, forcément, Bertrand, tu l'as très bien expliqué dans ta chronique l'autre jour, on perd des choses, on gagne des choses. Et moi, je vais donner un exemple typique d'une amélioration qu'on ne peut pas contester sur le fond et qui, pourtant, pour moi, a fait perdre à Roland ce que je préférais à Roland-Garros. C'est le toit. Le toit sur le Châtrier. Je pense objectivement qu'en 2020, personne ne peut contester que c'était devenu absolument indispensable. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, il n'y aura plus de matchs reportés à cause de la nuit ou à cause de la pluie. Et moi, ce que je préférais à Roland-Garros, depuis que je suis tout petit, c'est les fins de match au crépuscule. Quand la nuit arrive, alors ça fait rire Bertrand, mais moi, oui, c'est vraiment...
J'en ai commenté quelques-uns, c'est pour ça.
C'est vraiment ce que j'aimais. Quand l'atmosphère changeait, parce qu'on sentait...
Les joueurs râlaient aussi, on aimait bien celui qui voulait arrêter.
Mon fils,
ce qui était extraordinaire, c'est que ça changeait l'attitude du public et ça changeait l'attitude des joueurs. Parce que quand vous étiez dans un quatrième set, par exemple, vous disiez, là, il faut absolument que je finisse. Il faut que je le finisse au quatrième, sinon derrière, c'est fini. Et je pense, par exemple, que la finale, c'est pas Roland-Garros, c'est Wimbledon, mais c'est exactement la même chose. Le tout dernier match joué dans l'histoire de Wimbledon avant l'arrivée du toit sur le court central, c'est la fameuse finale 2008 entre Nadal et Federer, qui se termine à 9-7 au cinquième. Tout le monde la connaît par cœur. Cette finale-là, un an plus tard, elle est 100 fois moins mythique parce que personne ne peut contester le fait que ce soit joué comme ça, la nuit tombante, dans l'urgence, en sachant que c'était les tout derniers jeux qu'on allait arrêter, ça a changé beaucoup de choses et ça a donné une aura supplémentaire à cette finale. Ça, c'est terminé, mais c'est le prix à payer pour la modernité.
Non, c'est vrai, mais alors, j'attends juste de voir pour le central. C'est vraiment ma dernière interrogation, le central. Donc, il y a le toit, mais pour l'instant, il y a une configuration avec peu de public. Alors, cette année, c'est un peu triste. Tout à l'heure, j'ai hésité à voir des matchs sur les cours annexes où il y a beaucoup d'ambiance, des 4e sets, des 5e sets. Il y a de l'ambiance, même s'il n'y a pas le public complet. On part sur le central, j'arrive sur un 5e set de Khachanov-Nishikori. Je me dis, wow, c'est le 5e set quand même entre deux grands joueurs, ça va être top. Oh, c'était mort, complètement mort. Bon, ça, alors, j'attends de voir, et je trouve qu'il est un peu bétonné par rapport à avant. Il paraît plus petit, alors qu'il était grand, et on voit un peu moins, maintenant le toit, on voit un peu moins l'extérieur, on a un peu moins de vue sur l'extérieur. Je le trouve un peu froid, en fait. Alors, il est froid, et j'attends de voir si c'est vraiment...
Oui, je suis froid, d'accord. On ne peut pas le juger tant qu'il n'a pas été plein.
Ou si on va attendre plein, effectivement, avec une grosse ambiance, quelle impression ça donnera. En tout cas, ce qui est certain, et ça, c'est très bizarre, cette sensation, c'est quand j'arrive sur ce cours, je n'ai plus l'impression que c'est le cours central de Roland-Garros. J'ai l'impression d'être à un autre endroit que ceux que j'ai connus dans les décennies précédentes.
C'est vrai qu'on ne le reconnaît pas, non, je suis d'accord.
Alors qu'un cours comme le Suzanne Lenglen, qui est encore dans son jus, qui va être modernisé, qui sera terminé en 2024, on sent encore le c'est là où il y a les plus grandes ambiances.
Ouais, mais c'est un cours beaucoup plus jeune, le Lenglen, il a 25 ans, c'est différent quand même. Mais c'est vrai ce que dit Bertrand, le Châtrier... Si on vous posait là en 2018, on vous bande les yeux, on vous remet là 3 ans après, vous n'avez vraiment pas l'impression d'être sur le même cours. Ça, c'est un peu perturbant.
Bon, on attend le retour du public en jauge pleine pour juger.
Allez, on jugera
ce nouveau Roland-Garros est mieux que l'ancien. On continue avec la stat de jeu 7 et Matt. On en parlait du cours Philippe Châtrier, la stat de jeu 7 et Matt, le compte partenaire d'Eurosport sur la quinzaine, concerne un match qui s'y est déroulé aujourd'hui. Kei Nishikori, tu en parlais Bertrand. Kei Nishikori, le spécialiste des matchs en 5-7. Comme au premier tour face à Giannesi, Kei Nishikori s'en est sorti encore en 5-7 face à Karen Khachanov. Le Japonais a désormais remporté 83% des matchs qu'il a disputés au 5e set en Grand Chelem. Seulement 2 joueurs font mieux depuis le début de l'ère Open parmi les joueurs qui ont disputé au moins 15 matchs en 5-7. C'est Johan Krik, 88% de victoire, 14 sur 16. Et Björn Borg, 87% de victoire, 20 sur 23.
Il y en a un des deux qui a un peu plus marqué l'histoire du tennis que l'autre.
C'est sûr ça. Nishikori, c'est impressionnant quand même. Quand on arrive au 5e set face à lui, c'est comme quand on arrive au 5e set face à Nadal. On a peu de chances de s'en sortir.
Sur les stats de Nadal, je ne suis pas sûr qu'il ait les meilleurs stats.
Il va moins au 5e set, Nadal.
Pas forcément, il en a des moins bonnes, d'ailleurs.
Il n'a peut-être pas joué les mêmes joueurs aussi tout le
temps.
C'est
ça. C'est vrai. Mais ce que je trouve assez fort, pardon, Laurent, en fait, que le pourcentage, ça ne veut rien dire. Hein. Si vous avez joué 2 matchs en 5-7 et que vous avez gagné, vous avez 100% de réussite. Mais il en a joué 33. Et donc, aujourd'hui, c'est sa 26e victoire sur 33 matchs en 5-7. Oui, là, c'est fort, effectivement. Il faut noter aussi que c'est souvent en Roland-Garros, puis c'est son 6e, c'est la 6e de suite. Les 6 derniers matchs en 5-7 qu'il a joué plus tôt, et c'était à Roland-Garros, avec parfois des défaites cruelles. L'an dernier, il perd l'Italien Travaglia, contre lequel il était largement favori. Mais oui, ça veut dire quelque chose. Quand c'est sur 33 matchs, ça veut dire effectivement que ce joueur est très solide. Ça peut paraître surprenant parce que c'est un joueur très fragile, quand même, physiquement.
Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, il a même une réputation parfois de choker dans les grands matchs.
Oui, puis il a aussi beaucoup, il a quand même été beaucoup blessé. Donc, on pourrait dire qu'il a un physique un peu en cristal. 5-7, c'est long. Aujourd'hui, 4 heures de match contre Khachanov, ça pourrait être difficile pour lui.
Là, il revient en ce moment. Il n'est pas forcément.
Oui, mais sur l'ensemble de sa carrière, je veux dire, hein, voilà, les matchs en 5-7. Bon, en tout cas, c'est une stat que je trouve très, très intéressante. Après, on en parlait avec Laurent Rantaine tout à l'heure. Johan Krieg, par exemple, a une super stat aussi. C'était pas le plus gros mental de l'histoire du tennis. Et il faudrait voir contre qui il a gagné ses 5-7.
C'est ça, parce que Nishikori, il y a quelques victoires en 5-7 contre des super grands joueurs. Mais sur ces 26, je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça quand même contre des, allez, on va dire des top 5, par exemple, ou des top 10. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Si tu regardes à Roland-Garros les dernières années où il a beaucoup joué et beaucoup gagné en 5-7, ce n'est pas toujours contre des superstars du circuit. Et ce qui est marrant, c'est qu'un autre joueur qui est réputé parfois fragile mentalement, c'était Alexander Zverev, qui lui aussi a un super bilan en 5-7. Donc, c'est assez mystérieux quand même cette histoire.
C'est vrai.
Après, moi, j'ai une idée, mais qui n'est peut-être pas bonne, mais c'est que en fait, ils sont au-dessus. Ce que tu disais, Laurent, c'est que ce n'est pas forcément à chaque fois contre des gros matchs. Si c'est des joueurs qu'ils doivent battre, c'est tout simplement qu'au lieu de gagner des matchs en 3-7 ou en 4-7, ils ont des moments
très
où
vrai.
Ils sont en, ouais. Justement où ils lâchent un set alors qu'ils ne devraient pas, mais qu'au final, comme leur niveau de jeu moyen est plus haut, eh bien, ils arrivent à s'imposer parce qu'ils ont ce petit plus. Moi, ouais, je l'explique plutôt comme ça.
Excellent, non, très bonne explication.
Oui. Tu as raison, et on peut donner une stat, par exemple, Raphaël Nadal, qui a désormais gagné 101 matchs à Roland-Garros, il en a gagné 2 en 5-7.
Ah oui, oui.
Un contre Djokovic et l'autre contre Isner, je crois que c'est les deux seuls. C'est pas parce qu'il n'est pas bon en 5-7, c'est parce qu'il joue quasiment jamais en 5-7. Il en a joué que 2, il les a gagnés. Donc s'il en avait joué 25 à Roland en 5-7, il en aurait peut-être gagné 20, il aurait un meilleur pourcentage ou un chiffre plus impressionnant. Mais tu as raison, Camille, c'est vrai que parfois le fait de battre un 80e mondial en 5-7, c'est aussi un aveu de faiblesse quelque part.
Non, c'est très, très vrai.
Je pense que ce soit Zverev ou Nishikori, ils sont connus pour avoir des moments où ils perdent de pied. Donc, je pense qu'il y a vraiment une vraie corrélation entre les deux, mais qu'au final, comme ce sont quand même des immenses champions, eh bien, ils arrivent dans les moments importants au cinquième à finalement passer devant.
Bon, cela dit, quand même, pour vous, pour aller un peu dans le sens d'un Nishikori fort en 5-7, je regarde un peu, il a battu quand même Ferrer, Cilic, Tsonga, Raonic deux fois, Wawrinka, Andy Murray, Cilic encore,
Djoko, non ?
Et Khachanov aujourd'hui. Non, pas Djoko, pas en 5-7, non.
Ah, mais c'est pas que des 80e mondiaux, effectivement.
Voilà,
mais,
donc il y a quand même aussi des belles victoires.
Ouais. Donc, la demi-finale de l'US 2014, c'était 4-7.
Hein. 4-7, absolument.
Très bien.
Mais obligé à finir ma salade un peu plus vite parce qu'il fallait les commenter derrière le Federer Cilic.
On y viendra dans notre dernière partie sur les pronostics.
Quelle transition.
Mais avant, nous allons parler de l'affiche de jeudi. L'affiche du jour, elle oppose Richard Gasquet à Raphaël Nadal en night session sur le court Philippe Châtrier à partir de 21h. Donc, Richard Gasquet, on a tous envie de le voir face à Raphaël Nadal. C'est l'histoire des deux qui se suivent et malheureusement, la pièce tombe toujours du même côté. Cette petite stat qui fait mal pour le Français. En 16 confrontations, Richard n'a jamais battu le Mallorquin. Qu'est-ce que vous attendez comme match demain ? Je n'ai pas envie de dire, est-ce que vous imaginez Richard battre Nadal, mais qu'est-ce que vous attendez comme type de match, Camille ?
Qui crée du jeu. Richard, à un moment, vu son expérience, s'il se met à se mettre un petit peu loin derrière et à essayer de lifter, de tenir tête à Rafa sur un combat de fond de course et perdu d'avance. Et il a montré notamment à Lyon, il m'a sacrément impressionné qu'il était capable d'être beaucoup plus agressif, de varier beaucoup plus. Et il va falloir qu'il prenne sa chance avec les différents outils qu'il a dans sa raquette. On sait que c'est un magicien, Richard. Là, il n'a plus rien à se prouver. On ne va pas dire qu'il faut qu'il se fasse plaisir parce que d'arriver sur terre à Roland face à Rafa,
lui, c'est ce qu'il a dit.
Oui, non, mais c'est pas facile de faire plaisir. Donc, qu'on ait envie, mais bien entendu, après, il y a le jeu. Il y a est-ce qu'il va pouvoir être un peu plus proche de sa ligne avec le livre de Rafa. Il va y avoir un sacré timing à voir. Donc, d'essayer en tout cas d'être un peu plus créatif que d'habitude. Moi, je pense que ça serait déjà, s'il y arrive, une sacrée performance pour lui face à Rafa.
J'ai lu dans ses propos, dans sa conf de presse après le match d'Hugo Gaston, le mot « heureux » un nombre incalculable de fois. Donc, il a dit à quel point il était heureux de jouer, de gagner ce match devant du public. Alors ça, c'est le gros problème, c'est qu'il était content d'avoir déjà gagné au moins un match devant du public. De ce langage-là, malheureusement, encore une fois, ce match, il va être en night, donc il restera sans public. Donc, prendre du plaisir sans public, déjà, quand on sait qu'on va qu'on a 99% de chances de perdre par rapport au niveau de Nadal et aux statistiques. C'est un peu plus dur de prendre du plaisir, c'est dommage. Mais quand même, ce côté heureux, on sent, voilà, bientôt 35 ans, Richard, il adore le tennis, il a eu beaucoup de soucis physiques, il a eu du mal à revenir à son meilleur niveau, il a peut-être parfois rejoué trop tôt, donc reperdu, il s'est reblessé. Et là, j'en parlais avec Eric De Blicquer, qu'il connaît quand même très très bien récemment, il dit, voilà, il aime, il a envie de continuer, il a envie de se faire plaisir encore, tant qu'il le peut. Et ça, à Roland-Garros, on peut se faire plaisir. Alors, se jauger face aux meilleurs joueurs de l'histoire du tennis sur terre battue, peut-être de l'histoire du tennis tout court, évidemment, c'est quand même génial. Ça aurait été mieux avec du public, ce sera sans public, mais je sens qu'il arrive extrêmement détendu sur ce match. Et ça, c'est bien, parce que par rapport à l'époque où on attendait les quatre mousquetaires français, on dit, allez, ils peuvent peut-être bousculer les meilleurs, là au moins, ils s'enlèvent la pression, personne ne l'attend. J'espère qu'il va pouvoir jouer complètement libéré ce match. Et en jouant très libéré, eh ben pourquoi pas, je ne vais pas dire inquiéter Nadal, mais en tout cas, faire un set accroché, voire deux, enfin voilà, en tout cas, faire son match, quoi.
Laurent, tu l'as suivi aussi en conférence de presse après le match contre Hugo Gaston, et tu m'as dit, il a été très bon en conférence de presse, justement sur Nadal, etc.
Ah, franchement, pour ceux qui pensent que les conférences de presse ne servent à rien,
ou celles,
Il faut lire ou écouter la conférence de presse de Gasquet après sa victoire contre Hugo Gaston, où il a été question à 95% de Raphaël Nadal, et il aurait pu faire le blasé parce que ça fait 15 ans qu'on lui en parle de ça. Et d'ailleurs, il a dit que il avait tout dit, et pourtant il a tout redit, mais d'une façon différente. Et c'était une conf formidable parce qu'il a parlé technique, il a parlé tactique pour expliquer pourquoi il n'y arrivait pas contre Nadal. Alors, il le dit, c'est le seul grand joueur que j'ai jamais battu. Donc, il expliquait pourquoi il n'y arrivait pas. Il a parlé de son rapport presque émotionnel à Nadal parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont préadolescents, ces deux-là. Donc, cette conf, elle était formidable et elle disait tout. Et c'est vrai qu'il a été plus question de leur rapport sur ces 20 dernières années que du match de jeudi presque. Et quand il parle de plaisir, ce qu'il voulait dire, c'est que la dernière fois qu'il a joué Nadal à Roland, il dit « j'ai pris aucun plaisir parce que je n'ai pas joué, voilà. Je suis passé complètement à côté ». Passer à côté, ce n'est pas parce qu'il avait pris 3-7, parce qu'il prendra probablement… Oui, voilà, c'est ça. Il est sorti du cours en disant « j'ai rien fait » et c'est ça qu'il veut éviter demain. Alors évidemment, ce sera plus dur sans public, ça je suis d'accord. Mais d'abord,
il faut qu'il puisse tenir, et c'est ce qui m'inquiète.
Ah oui, non, mais moi, je pense que
s'exprimer, pas forcément aller gagner, mais ça va lui demander de tenir, et ça semble compliqué.
Le scénario optimiste, c'est un premier set très, très accroché, que Nadal finit par gagner, et derrière, les deux déroulent. Le scénario ultra optimiste, c'est un premier set très accroché, que Gasquet arrive à gagner. Après, qu'il gagne 2-7 ou 3-7 contre Nadal, honnêtement, ce serait un des trucs les plus invraisemblables de l'histoire du tennis s'il gagne demain, jeudi. Donc, mais voilà, moi déjà, ça fait 16 ans qu'il y a eu leur premier match ici. Et il y a 16 ans, je n'aurais jamais imaginé les retrouver tous les deux encore là. Et ce match, moi, c'est un de ceux qui m'ont plus marqué vraiment depuis peut-être 20 ou 30 ans à Roland-Garros, pour une raison simple, c'est qu'ils ont tout juste 19 ans tous les deux. Ils se sont joués à Monte-Carlo en demi-finale 2 mois avant. C'est le lendemain de la fameuse victoire de Gasquet contre Federer. Ce match, il est magnifique. Vraiment, ils se répondent du tac au tac. Et Nadal finit par gagner en 3-7. Mais ils se tiennent vraiment. 2 mois après, sur le central, ils se retrouvent au troisième tour. Et ce jour-là, j'ai ressenti presque physiquement que Nadal était à sa place et que pour Richard, tout paraissait trop grand ce jour-là. Le court, son adversaire et l'enjeu, et l'événement, voilà, parce que c'était Nadal à Roland-Garros. Et tout s'est joué ce jour-là, et ce jour-là, on a compris, je ne dis pas que Nadal allait gagner 20 ans du Grand Chelem ou 13 ans de Roland-Garros, mais qu'il allait être un immense champion, qu'il était déjà un très grand champion, et que pour Richard, c'était beaucoup moins évident. Alors, on ne pouvait pas présager de ce qu'il ferait, de ce qu'il ne ferait pas, mais la différence entre les deux matchs de Monte-Carlo et de Roland 2 mois après, c'était incroyable et vraiment, ça m'a marqué. J'ai rarement ressenti ça devant un match de tennis.
Et c'est ce jour-là que Richard… Ça a marqué aussi d'ailleurs, hein, parce que exactement, Adrien, je crois que tu as dit la même chose que moi. Il a dit à son père en sortant du cours, lui, il n'a pas dit qu'il allait gagner 20 grands chelems non plus, mais il a dit lui, c'est un monstre et il va gagner Roland-Garros. Il dit, j'imaginais pas qu'il allait gagner 13 fois, évidemment, personne ne pouvait l'imaginer.
Non, c'est sûr, mais on a tout compris ce jour-là, on a vraiment compris. Tout ce qu'allait être Nadal… et tout ce que n'était pas encore Gasquet, qu'on espérait qu'il devienne, qu'il est partiellement devenu, parce que Richard Gasquet, il a fait une très, très belle carrière. Mais la différence, c'est que des joueurs comme Richard Gasquet dans l'histoire du tennis, il n'y en a pas des milliers, mais il y en a des dizaines, je pense, des joueurs comme des champions comme Rafael Nadal. Bah, vous pouvez prendre les doigts d'une main, éventuellement une ou deux phalanges supplémentaires, mais ça s'arrête là, quoi.
Et puisque tu as parlé justement, juste un petit aspect tactique, il explique très bien les choses. Il dit qu'en général, Richard, il domine le match, il essaie de dominer le match dans la diagonale revers. Hein, on connaît son revers qui est exceptionnel, Richard. Que contre les droitiers, bah, en général, ça fonctionne. Et que contre Nadal, il est toujours tombé sur un os parce que son revers tombe sur le coup droit Nadal. On connaît le coup droit Nadal et l'effet qu'il est capable de mettre dedans, qu'il lui met une balle évidemment qui arrive beaucoup plus haute que celle des adversaires et qu'il a été torturé lui aussi côté revers, comme tous les joueurs à une main face à Nadal, même si Tsitsipas s'en sort plutôt bien dans la jeune génération. Mais voilà, donc il explique ça. Je trouve c'était intéressant cette conférence. Il a aussi expliqué ça. Pourquoi il a toujours perdu contre Nadal? Parce que ce qui fait d'habitude sa force contre d'autres adversaires, bah là, c'était totalement annihilé par le tennis de son adversaire, le fameux mariage des jeux en sa défaveur.
En tout cas, si vous avez l'occasion de relire cette passionnante conférence de presse ou de l'écouter, n'hésitez pas. Merci en tout cas de nous avoir régalé, de nous avoir raconté ces petites histoires, parce que c'est ça qu'on aime aussi dans ce podcast, c'est qu'on nous raconte l'histoire du tennis. Et là, moi, j'ai pris du plaisir à vous écouter parler de Gasquet Nadal, et j'espère que les auditeurs aussi.
Oui, je vous parle de boutique 22 ans de chulpe, Adrien ? Non ? Eh bien, je vous en parlerai quand même, mais dans une chronique.
Voilà.
Et juste, il y aura un article jeudi sur Eurosport.fr de Maxime Battistella qui va très largement revenir sur le match Nadal-Gasquet et notamment sur ce qu'a pu dire Richard dans cette fameuse conférence de presse.
Pour finir, un petit pronostic, pas sur ce match-là parce que c'est en Aïtéjane, on en a beaucoup dit, on connaît presque l'issue, mais plutôt sur Sa Majesté Federer qui rencontrera Marin Cilic. Cette fois-ci, on va laisser aller Camille. Vas-y,
ouais,
commence.
Allez, Federer en 4.
Federer en 4. Bertrand.
Federer en 3. 7-6, 7-5, 6-3.
Tu n'auras pas de points en plus, Bertrand.
Oui, ça ne sert à rien.
Il tente le coup.
Moi, je l'imagine surtout. Je l'imagine le match.
Et tu sais quoi ? On devrait même te retirer des points si tu as.
Ouais, à chaque fois, il tente.
Ouais, mais si vous avez un point, ce quatrième set, il est où le set gagné par Cilic ? C'est ça que je voudrais savoir.
Moi. Ben, moi, je vais te le dire, parce que je veux aussi dire voilà. Federer en 4. Parce que je pense que Cilic est, à mon avis, assez loin quand même en ce moment. Mais je pense que sur un set, voilà.
Je vais dire le deuxième, moi. Allez,
okay. Moi, je vais dire le troisième.
Ah. Allez, OK.
Allez, il y aura des demi-points bonus. Il y aura des demi-points bonus.
Okay. Ouais, je crois que c'est la demi-finale d'Estoril. Nori, Cilic me laisse à penser que ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu Cilic jouer aussi mal. Alors bon, j'espère pour lui qu'il jouera mieux là, mais ça faisait mal quand on sait le joueur qu'il a été. Donc voilà, il est quand même très loin de son meilleur niveau.
La vérité, Marine, tu fais de la peine, comme on dit.
Merci à tous. Terre débattue, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter sur les plateformes d'écoute, nous mettre 5 étoiles, nous laisser des petits commentaires si le podcast vous plaît. Et puis vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, suivez bien l'actu sur Eurosport. Et si vous avez le temps, allez taper la balle. Allez, bye.
Salut.
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 Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.